Parole de paix sur RCN, Stéphane Tabourin.
Dans un contexte mondial de guerres multiples et de crises climatiques majeures, et alors que nous nous enfonçons dans une société de plus en plus autoritaire, de surveillance, de contrôle et de violence, Parole de paix vous propose un magazine humaniste d'information, d'analyse et de discussion. Notre collectif d'associations nancéennes échange autour des conditions nécessaires à la paix, à faire humanité, mais aussi sur des conflits, des guerres et leur préparation. Des sujets que nous discutons et que nous voulons partager avec les auditeurs et auditrices, parce que tout ce qui touche à l'humain nous concerne toutes et tous. Cette semaine, nous sommes avec la Ligue des droits de l'homme, avec Catherine.
Bonjour à tous.
Bonjour Catherine. Alain Desmarais de l'AFPS, l'Association France-Palestine Solidarité.
Bonjour, bonjour aux auditeurs.
Et nous aurons en insert téléphonique Philippe Leclerc, le président de l'Association de Solidarité avec le peuple sahraoui, parce que cette semaine, nous allons parler du soutien au peuple sahraoui. On vous en dit plus tout à l'heure. Mais tout de suite, on commence, comme d'habitude, par quelques brèves. Qui commence? Moi, je commence. Ouais, d'accord. Donc moi, Stéphane, pour le mouvement de l'objection de conscience, nous avons déjà fait sur Parole de paix des émissions pour marquer notre opposition au Service National Universel, le SNU, que Macron souhaite ardemment imposer à la jeunesse de France. Je voulais annoncer que lundi 18 décembre, de 18h à 20h, à la MJC Lillebonne, il y avait une conférence dont le titre est... Enfin, c'est pas une conférence, ce sera plutôt d'ailleurs une réunion publique. Donc une réunion publique à la MJC Lillebonne à Nancy, le 18 décembre, 18h-20h, dont le titre sera « Non au SNU obligatoire en classe de seconde ». Donc si vous avez des questions, si vous êtes parents, grands-parents, si vous êtes tout simplement soucieux de la question des obligations que ce gouvernement prévoit pour la jeunesse, en dehors de l'éducation nationale et de ces fameux uniformes et autres bivesées. Rendez-vous le 18 décembre, lundi 18 décembre à 18h à la MJC Lillebonne pour parler du service national universel, le collectif qui anime cette réunion, qui est cette réunion publique où chacun peut venir poser les questions qu'il veut. Le collectif qui anime cette réunion a les semaines passées donné des tracts dans une quinzaine de lycées de l'agglomération nancéenne et au-delà. Donc, lundi 18, 18h, MJC Lillebonne.
Bien.
Alain, à toi.
Oui, alors, moi, il y aurait... C'est difficile de faire bref pour parler des enjeux de la question palestinienne et de ce qui se passe à Gaza. Simplement dire qu'aujourd'hui, on est confronté à un véritable génocide dans la bande de Gaza. Certains organismes, et non pas le Hamas, parlent de plus de 20 000 morts. Sur ces 20 000 morts, c'est 70% de femmes et d'enfants. Et des déplacés à qui on a dit d'aller du nord vers le sud et qui maintenant sont sous les bombes dans le sud, qui n'ont pas à se loger. Il faut savoir que il fait froid en ce moment, l'hiver, les gens sont dehors, sous des tentes, on a une situation absolument catastrophique et... Surtout, on constate que les grands pays occidentaux ne bougent pas, ne font rien, et que cette situation est en train de devenir une situation absolument catastrophique. Médecins sans frontières, entre autres, et plein d'autres organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme. C'est une véritable catastrophe. Donc moi, je voulais simplement dire que face à cela, on se retrouve avec l'ONU, complètement paralysé par ses règles de fonctionnement interne et avec une tentative de faire annoncer un cessez-le-feu définitif, tentative qui a été bloquée au Conseil de sécurité par les États-Unis. C'est quand même énorme, quoi. Et là, on a vraiment deux poids, deux mesures entre ce que l'on peut faire à juste titre pour le peuple ukrainien face à l'agression russe et ce que l'on fait pour le peuple palestinien face à l'agression israélienne. Il serait temps que l'ensemble des pays qui sont largement majoritaires à l'ONU, même les petits pays se regroupent pour faire changer les règles de fonctionnement de façon à ce que l'ONU ne soit plus paralysée par un des grands pays occidentaux, parce que le Conseil de sécurité, c'est les plus grands pays occidentaux, et pas seulement d'ailleurs, hein, y a aussi la Russie, il y a aussi, etc. Donc il serait grand temps que l'ONU, s'il ne veut pas se discréditer, change ses règles et que les pays appellent à ce changement de règles, quoi.
Oui, notamment comme tu commençais à le dire, les cinq pays de la commission de la permanente de sécurité sont ouais, également ouais. Les plus grands vendeurs d'armes du monde.
Exact.
Et donc ils ont pas vraiment d'intérêt à la paix et c'était effectivement un scandale de voir les États-Unis lever la main, là, cette photo, je l'ai en tête, pour les États-Unis se sont opposés à un cessez-le-feu. Donc les États-Unis ne veulent pas que les bombes arrêtent de tomber. Et c'est quand même scandaleux. Et,
alors on peut se poser la question du pourquoi. Alors il y a ce que tu dis, hein, la vente d'armes. Pas seulement, il y a des enjeux économiques énormes. Il y a du gaz au large de Gaza. On est à côté de pays producteurs de pétrole et des articles très documentés sont parus dans la presse qui montrent que il y a aussi de la part des États-Unis, d'Israël, le travail pour une alternative aux routes de la soie chinoise et pour s'opposer économiquement dans la région et puis pour sauver surtout les énergies fossiles et avec par exemple un projet de l'oléoduc qui passerait par Gaza entre autres. Donc on voit qu'il y a des intérêts économiques. Et on dit souvent, on présente souvent le conflit comme un conflit religieux entre la religion juive et les musulmans. Et on voit bien que derrière, c'est des enjeux qui sont tout autres. Il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux de colonialisme, des enjeux totalement différents. C'est plus pratique de dire que c'est un conflit sur une base religieuse.
C'est totalement politique. C'est un État qui demande, qui depuis des années demande un peuple qui demande d'avoir son État.
Voilà. Et la France, là-dedans, joue un rôle catastrophique. La France s'est réalignée derrière les États-Unis depuis Sarkozy et du coup ne bouge pas. Alors, on a des propos. Macron peut toujours parler de deux États. Ça ne veut rien dire quand on fait rien pour. Ou alors des propos tels que Israël a le droit de se défendre, Israël a le droit d'exister. Mais la question n'est pas là. La question est que depuis 75 ans, on ne donne pas au peuple palestinien la possibilité de son autodétermination et de vivre en paix dans un pays alors qu'ils ont été privés d'une grande partie de leur terre. Alors, donc voilà.
Je voulais rajouter qu'en France, en plus, on a en France un gouvernement qui, à la fois, tu viens de le dire, demande le cessez-le-feu, mais demande de soutenir Israël de façon inconditionnelle. Bon, c'est incompréhensible. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de vraie ligne en ce moment en France. Et aucun acte concret. C'est parler, c'est brasser du vent, ce que fait la France. Et ça, non seulement il brasse du vent, mais en même temps, parce que c'est le gouvernement du en même temps, et en même temps, tape sur sa population. Et rappelons-nous qu'à Nancy, on a été empêché à plusieurs reprises de faire à Nancy et dans toute la France de faire des manifestations de soutien au peuple palestinien qui se prend les bombes.
C'était pas tout à fait ça. C'était manifestation pour la paix.
Pour la paix,
et c'était
interdit.
Et l'arrêt des bombardements.
C'était interdit. Et il a fallu se battre auprès des tribunaux pour pouvoir lever les interdictions. Bon, maintenant ça va mieux, mais Et pas dans toutes les villes encore, apparemment.
Non. Il y a encore Nice, par exemple.
Toulouse, je crois aussi.
Toulouse, oui, où les préfets continuent à faire du zèle. Mais tu as raison de parler. On ne peut pas faire du en même temps sur la question palestinienne. Oui. En même temps, ça voudrait dire qu'il y a deux peuples égaux. Non, il y a un occupant, un occupé. Il y a un colonisateur, il y a un agresseur, et il y a un peuple qui essaye de vivre. Alors bon, moi je veux pas monopoliser la parole dans cette... puisqu'on va parler aussi des Sahraouis, qui ont bien besoin qu'on parle d'eux, mais on continue à se battre, malgré les fêtes de fin d'année. On invite la population à nous retrouver dans les trois samedis qui vont précéder, enfin qui vont se dérouler pendant les fêtes, le samedi 16, le samedi 23, le samedi 30. On sera dans trois lieux différents, le 16 place Maginot, le 23 devant la place Stanislas devant l'office du tourisme et le 30 devant l'entrée du centre commercial Saint-Sébastien pour parler avec les gens et leur dire que leur poids est important. Si les États ne bougent pas, qu'est-ce qui fait bouger les choses dans le monde ? C'est quand les peuples bougent. Et il faut qu'on continue la pression pour que la France bouge enfin. Il est possible de faire des choses. Il y a plein d'accords économiques entre Israël et la France et l'Europe. Il y a des accords universitaires. Il y a des accords militaires. Il y a des manœuvres qui se font en commun entre l'armée française et l'armée israélienne. Et la France vend des armements. On en retrouve dans les décombres des maisons, des missiles, Made in France. Ouais. La France peut faire... Si la France décide d'arrêter toutes ces relations économiques, politiques, intellectuelles, Israël sera en difficulté.
Il sera obligé d'écouter un peu.
Voilà. Et comme on fait avec la Russie, même si on voit bien qu'il y a des façons de contourner, mais Israël ne vit que des accords avec les grands pays occidentaux.
C'est parti de l'Europe.
3,5 milliards chaque année versés par les États-Unis à Israël. 3,5 milliards connu.
Et l'Union européenne, considère Israël comme un partenaire de...
Complètement.
Privilégié. Ouais. Donc, Alain vient de nous dire que même dans cette période de froid et de Noël, on peut pas rester indifférent à ce qui se passe.
Là-bas, ils sont sous les bombes.
Oui, tu as dit des chiffres qui sont horribles. Il y a plus de 17 000 morts, 20 000 morts sous certaines sources, et des femmes, des enfants.
Même plus.
Donc on ne peut pas ne rien faire, et donc on conjure nos concitoyens de Nancy et au-delà de venir donner leur point de vue. Donc on redit les dates,
le 16, le 23, le 30, donc le samedi après-midi.
Samedi après-midi, 16 décembre, ça sera place Maginot, voilà. À partir de 14h30.
Voilà, jusqu'à 16h30, hein, parce qu'après il fait nuit,
ouais. il fait froid.
Et donc 16 décembre, 14h30, ouais. Place Maginot, venez vous exprimer,
verser quelque chose si vous pouvez pour la population gazaoui, hein. On rassemble des fonds parce que même si le cessez-le-feu intervenait aujourd'hui, c'est une situation qui va pendant des semaines et des semaines être catastrophique au plan sanitaire, plan humanitaire, ouais. Au plan de la famine. C'est vraiment une situation folle, quoi.
Donc samedi 16, place Maginot.
Ouais.
Samedi 23, ça sera quelle place ?
À l'entrée de la place Stanislas.
Donc le samedi 23, devant la place
Rue Stanislas. Rue du Dominicain, quoi, devant l'office du tourisme.
Et le 30, alors ?
Le 30, devant le centre commercial Saint-Sébastien.
D'accord.
Quelle entrée ?
Où il y avait anciennement Orange, l'agence Orange.
Là. C'est pratiquement sous le...
Ouais.
Sous le
nom de l'église.
Mais pas sous le hall, parce que...
Oui, on n'a pas le droit d'être sous le hall.
On n'a pas le droit, voilà.
Oui, près du centre...
sur le côté de l'église, voilà.
CA Orange, oui, d'accord, dans ce coin-là. D'accord, donc ça c'est pour le 30. Le 30, je pense qu'il y aura aussi le cercle du silence.
Oui.
Donc on peut s'organiser pour passer aux deux.
Voilà.
Bah voilà, donc... On pense tous les jours au peuple palestinien. Ce qui se passe est intolérable, insoutenable. Ouais. On peut pas.
Mais on est dans le deux poids deux mesures. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire les droits de l'homme aujourd'hui, enfin les droits humains aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe là-bas, quoi. Parce que c'est plus la peine que les dirigeants occidentaux parlent des droits humains dans d'autres conflits. Quand ça les arrange, ils en parlent. Quand ça les arrange pas, moi je pensais, on m'a toujours dit que c'était universel, les droits humains, mais visiblement ça ne l'est pas.
Donc je rappelle aux auditeurs, aux auditrices, s'ils veulent des informations sur les activités de l'association France-Palestine Solidarité. AFPS Lorraine Sud, ils peuvent écrire à afpslorsud@orange.fr.
Ah, tout à fait.
Voilà.
Et alors, il me semble aussi qu'il y a une cagnotte en ligne.
Alors, il y a une cagnotte en ligne sur Hello Asso, qui permet, pour ceux qui le souhaiteraient, de pouvoir verser des fonds. Et quand on organise ces collectes de fonds, on a un certain nombre de citoyens qui sont quand même généreux face à la situation sur place. On a organisé une soirée 4 heures pour Gaza. Dans cette soirée, on a récupéré plus de 4000 euros. Donc, et ça sera important pour aider les populations sur place. On veille bien, j'en profite pour dire qu'on veille bien, c'est collecté au niveau national. Nous, on fait tout remonter à notre direction nationale et on veille bien à nos contacts sur place pour que l'argent aille vraiment à la solidarité et n'aille pas à des trafiquants quelconques, parce que la bande de Gaza, dans ces moments-là, hélas, il y a des comme vautours, comme partout, qui pourraient détourner l'argent. Donc, on fait bien attention à nos contacts. Voilà.
Ah bah très bien. Donc, si des auditeurs n'ont pas entendu une partie de ces interventions, on peut toujours revenir, parce qu'on est en podcast sur le site de rcn-radio.org, et on est également sur la chaîne YouTube de RCN. Une autre des autres brèves de la Ligue des droits de l'homme, Catherine.
Oui, alors moi je voudrais revenir sur deux sujets, deux textes qui parlent de l'immigration. Le pacte européen sur l'immigration, donc, qui est discuté en Europe, et là, la LDH s'oppose à l'expansion de la base de données Eurodac, alors avec d'autres associations. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Eurodac ? C'était un fichier qui avait été créé en 2003 pour éviter que des étrangers voyagent à travers les pays d'Europe. Donc, c'était pour éviter ce qui s'appelle les procédures Dublin.
Oui.
Voilà. Donc,
on rappelle que c'était quand un étranger pose son pied en Europe sur un pays, c'est là qu'il doit faire toutes ses démarches.
Dans un pays. Donc ils avaient créé ce fichier. Et là, il est en train de s'étendre de façon vertigineuse. Il s'était déjà étendu, je crois que c'est en 2013, pour que la police y ait accès. Alors normalement, c'était uniquement pour gérer le droit d'asile, un règlement. Voilà. Et là, la police y avait accès. Et la dernière nouveauté, c'est de collecter beaucoup plus d'informations et d'ouvrir beaucoup plus ce fichier à la police, les militaires, enfin à tout le monde. Donc, ça va mettre en péril l'asile, parce que ça veut dire que dès qu'un étranger se fera repérer à l'entrée d'un pays européen, même s'il demande l'asile, on va le photographier. A priori, il demande aussi des analyses ADN. Donc le Front National, bien sûr, du coup, les réclame en France. Il est pionnier. ADN, donc photos, documents d'identité qui seront enregistrés, numérisés et partagés avec plein de monde. Donc vous imaginez bien qu'un demandeur d'asile à la frontière de l'Europe, il n'a peut-être pas envie de donner tout de suite son identité tant qu'il n'a pas mis le pied en Europe pour pouvoir demander son asile. Voilà, donc ça c'est le premier point. Et puis deuxième, ça sera étendu aussi aux enfants à partir de 6 ans. Donc tous les enfants seront fichés et par la suite, on pourra leur ressortir. Vous êtes rentré à 6 ans avec vos parents et il y aura aussi de la reconnaissance faciale. Je sais pas comment ça s'appelle,
des logiciels peut-être vendus par Israël.
Ils sont très forts là-dedans. Oui. Donc, Voilà, donc il y aura les images faciales qui vont être incluses, sachant que maintenant, on peut, avec une image à une date donnée, faire vieillir ou rajeunir de façon relativement fiable. Reconnaître les traits et tout. Donc ça, c'est... Voilà, donc c'est à nouveau un durcissement de l'accès à l'Europe pour tout le monde. Alors qu'au départ, c'était simplement un truc administratif pour gérer et répartir les demandes d'asile dans les... En fait, plutôt... Les pays de l'Ouest européen espéraient comme ça que les demandeurs d'asile resteraient. Alors à l'époque, c'était essentiellement sur l'Est européen. C'était Pologne. La Pologne aurait eu presque tout à régler, quoi.
La Grèce, l'Italie. Italie.
Maintenant, il y a Italie et Espagne. Oui. Mais ça préservait la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne. Et ça devient un système policier qui va ficher tout le monde. Voilà. Et ce sera coercitif, c'est-à-dire que l'étranger ne pourra pas y échapper.
Voilà. Étranger qui quitte son pays par plaisir, pour venir... souvent, ils viennent de pays où il fait chaud, ils viennent chez nous où il fait froid, par plaisir, et parce que, comme ça, ils ont envie de grossir les rangs du nombre de migrants. Il faudrait qu'on parle quand même un petit peu, un peu plus de ce qui fait que... d'abord, faut poser la question à chacun, à chaque citoyen, s'il a envie, il aurait envie de quitter son propre pays comme ça en masse, comme le font certains habitants de certains pays. Il y a des catastrophes climatiques, il y a des guerres, il y a la faim, et souvent les pays occidentaux qui refusent d'accueillir sont responsables de cette situation. C'est vraiment honteux, quoi.
Et puis, ce qui est aussi affreux, c'est cette instrumentalisation qui consiste à une population donnée, la France par exemple, à essayer de leur faire peur, et essayer de leur faire haïr ces gens avec des mensonges éhontés sur les conséquences qui ne sont pas du tout si graves que ça, que des la France s'est construite avec des déplacements de personnes. On est en France dans les années 90 ou 2000, on chantait tous première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Et effectivement, la France est un pays forcément d'immigrés de brassage, et après ça fait la population française
avec une richesse culturelle formidable.
Oui.
Et que ce soit au niveau européen ou au niveau français, on essaye de nous faire assimiler demandeurs d'asile et criminels.
Oui, ça c'est affreux aussi. Et ça c'est la droite et l'extrême droite.
Et ça, ce que Darmanin et Rodec partageaient avec la police, c'est vraiment aussi comme ça. Mais c'est dans toute l'Europe.
Oui, c'est des mensonges. Et c'est des mensonges.
Oui.
Ça a été aussi en France avec les Italiens, avec les Polonais, avec les Espagnols.
Il y a une histoire forte pour les Rital. Ouais.
Et donc la LDH demande, avec d'autres associations, que Eurodac ne soit pas étendu avec toutes ces nouvelles mesures. Et puis bon, conteste aussi une bonne partie du pacte européen sur l'immigration.
Et sinon, alors, on a aussi dans l'actualité Darmanin qui a quand même qui a pris une grosse claque, une grosse défaite. Darmanin a perdu. Alors, je te pose la question, Catherine. Darmanin a perdu, mais nous, on n'a pas réellement gagné. À part du temps, peut-être un peu de temps. Parce qu'ils vont essayer, ce qu'on a lancé ce qu'on a jeté à la poubelle, ils vont essayer de nous le remettre dans la maison, par un effet de boomerang. Donc, il faut rester vigilant, c'est ça, que la LDH.
Oui. Parce que bon, là, tout le monde le sait, ça va passer en commission mixte paritaire, c'est-à-dire moitié de sénateurs, moitié de députés, les sénateurs étant pour revenir au texte le plus dur. Et puis, les députés, alors là, je ne sais pas qui va y siéger.
Il semblerait que majoritairement, ils soient de droite.
Voilà, donc ça va peut-être être terrible du compte.
Ça se trouve, ça sera encore plus dur.
De toute façon, après, normalement, ça repasse au Sénat pour être voté et à l'Assemblée pour être voté. Ouais. Donc, on peut toujours espérer qu'à l'Assemblée, ça bloque encore.
Donc, on reste tous très, très vigilants. Oui. La Ligue des droits de l'homme à Nancy, RESF, les États généraux des migrants, la CIMAD, il y a plein d'associations à Nancy qui font attention à leur prochain. Parce que ça aussi, peut-être avoir tous dans la tête, est-ce, Est-ce qu'on peut faire aux autres, à une autre personne humaine, la même, une chose que nous-mêmes qu'on n'accepterait pas? Parce que donc c'est important. Tous les derniers samedis du mois, il y a le Cercle du Silence à Nancy. Venez, c'est à, en général, c'est à 15h, place Stanislas. Le dernier samedi de chaque mois, je pense qu'il y en aura un aussi, sans doute, le 30 décembre. Oui, oui. Et on peut aussi rencontrer des gens. Si on veut aussi joindre la Ligue des droits de l'homme, l'adresse mail n'est pas difficile, c'est ldh-nancy@lth-france.org.
Et il y a aussi, mais je n'ai pas les adresses, à Facebook, donc ça se trouve facilement.
Oui.
Qu'est-ce que je voulais dire? On reste vigilant. Le 18 décembre, normalement, c'est la journée mondiale des migrants. On ne sait pas encore ce qu'on va faire parce qu'on attend. On attend de voir comment ça va tourner. Mais je rappelle qu'on peut toujours interpeller son député. Mmh. Alors, en allant sur interpellation.voxpublic.org, action. Et là, on est guidé pour interpeller son député parce que ça repassera devant eux, cette loi.
Alors, et puis dire aussi aux auditeurs que la dernière émission qu'on a faite, c'était avec Brigitte Jeannot du syndicat des avocats de France, et puis toi déjà Catherine, on a fait une émission sur la question des migrants, donc on peut aller la réécouter, et on peut interpeller aussi la LDH pour savoir, pour venir grossir les rangs, ldh-nancy@ldh-france.org. On va faire une pause musicale. On va écouter, comme on parle dans cette émission de plusieurs luttes, on va écouter une chanson rap de MC Duval qui s'appelle « Nos luttes sont sœurs ». Et après le dossier.
J'ai passé la nuit debout à tchatcher du climat avec des gilets jaunes, en buvant du thé au jasmin indigné, hasta siempre la révolution. Une LGBT nous faisait remarquer qu'au fond depuis la Puerta del Sol, nos luttes étaient sœurs, donc on gamine et à police et qu'il y a un truc qui décolle. Toutes les cordes sont vagues et les vagues ramènent leur lot de débris. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on navigue tous au sommet d'un méga tsunami. Faut se fabriquer des rames avec un peu de tout ce que nous avons enfin compris. À atteindre enfin la surface de nos rêves où flottent nos compromis l'amis. Le 23 mai 2015 a eu lieu un coup de gueule intercontinental. La marche contre Monsanto a peut-être été la première manif mondiale. Au balai citoyen du Burkina Faso, le printemps marseillais, le mouvement y en a marre, mis tout balance au port et Black Lives Matter. Mais nos luttes ne seraient-elles pas un peu sœurs? Elles sont sœurs, ouais. Ouais, je suis sûr, ouais. On n'est pas d'accord sur tout, mais nos luttes sont sœurs, je t'assure. Elles sont sœurs, ouais. Ouais, je suis sûr, ouais. On n'est pas d'accord sur tout, mais nos luttes sont sœurs, je t'assure. Mon tendre bijou, tu le sais, je ne sais plus où désormais battre à mon cœur. J'essaie de m'informer sans attendre l'arrivée d'illogique et grandiose lueur. Assurément, je ne crois qu'en mes luttes et je crois que nos luttes sont sœurs. La société n'aura jamais de goût sans qu'on y mette un peu nos saveurs. Pas besoin donc de te dire à nouveau, l'urgence a déjà sonné chez toi. Y'a comme une odeur d'ammonium en anneau dans l'air chaud de nos panoramas. Mais y'a comme un lointain souvenir qu'en avril 2016, la ville tanga. Tu pourrais repartir des vrais encore fumant de nos places publiques en débat. L'insurrection suit son cours, elle est lente et c'est pour ça qu'on ne la voit pas. Elle est en train de glisser en dessous les bases de solides états. Elle est bien plus profonde que les fosses Marianne et plus haute que l'Anna pour là. Quand l'humanité sortira de sa version bêta, on en reparlera. Elles sont sœurs, ouais. Ouais, je suis sûr, ouais. On n'est pas d'accord sur tout, mais nos luttes sont sœurs, je t'assure. Elles sont sœurs, ouais. Ouais, je suis sûr, ouais. On n'est pas d'accord sur tout, mais nos luttes sont sœurs, je t'assure. Au lieu de faire des empires, faisons des en-mieux, soyons des en-jeunes et soyons moins les envieux. Des patentes et les pâtes et pas des pathétiques cerveaux alambiqués par nos biais politiques. Faisons des débats d'idiots du cartilage agile tel des Maasai dans nos tiers car en sèche l'indocile sci-sci du Valem. Si des roches vont s'y faire et relogent ces songes à la page, on invente, on desquame, on s'esclave, on s'étrique, on s'escacave, veut dire on s'escarre et mange jamais de lutter pour l'avenir car on sait qu'au fond quelque part on s'améliore et ma situation s'est rappée devant vous. Je ne peux que vous dire qu'on est capable de tout, se fédérer les causes en fin de compte on s'en fout. Ce qui compte c'est de s'éclater, radonner tout, de la moelle de nos os jusqu'à nos grandes gueules, au service de la cause et rien nous est égal. On est inattaquable parce qu'indéfendable, on est inarrêtable parce que vulnérable. On n'a pas besoin de scotch, on n'a pas besoin de colle, on n'a pas besoin d'icône, on n'a pas besoin d'idole. On sait qu'on partage au moins de jolies notions et la sororité qu'on met dans nos potions. Nos luttes sont sœurs, alors on y va now. Nos luttes sont sœurs, alors on y va now. Elles sont sœurs, ouais, ouais, je suis sûr, ouais, on n'est pas d'accord sur tout, mais nos luttes sont sœurs, je t'assure. Elles sont sœurs, ouais, ouais, je suis sûr, ouais, on n'est pas d'accord sur tout, mais nos luttes sont sœurs, je t'assure. Elles sont sœurs, ouais,
RCN, Parole de paix, Stéphane Tabourin.
Alors on retrouve Parole de paix sur sur le site et puis aussi sur 90.7. On écoute, on réécoute les podcasts sur le site de RCN, rcn-radio.org. On est dans la rubrique société et après on voit Parole de paix. C'est un petit organigramme comme ça. Et puis également on peut retrouver les émissions de Parole de paix sur la chaîne YouTube de RCN. En faisant RCN Radio Nancy, on tombe directement sur la chaîne. Cette émission nous avons le plaisir de faire le dossier sur le peuple sahraoui, sur le soutien au peuple sahraoui. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission avec Philippe Leclerc. Philippe Leclerc fait partie du collectif avec nous pour Parole de paix. D'habitude, il est en studio avec nous, mais là, un peu souffrant, il est chez lui dans les Vosges. Bonjour Philippe.
Bonjour Stéphane, bonjour Catherine, bonjour Alain.
Ouais. Salut. Donc on fait ce dossier sur le peuple sahraoui. Donc tu es président de l'association de solidarité avec le peuple sahraoui, ASPS, à ne pas confondre avec AFPS, on confond souvent les deux, le peuple palestinien et le peuple sahraoui.
Mais
et d'ailleurs,
son sœur, comme disait le rappeur Duval.
Et puis Philippe, Alain rappelait en début d'émission qu'effectivement que c'est important de faire des émissions, de faire connaître les luttes du peuple sahraoui et les difficultés qui sont proches. De ce qui se passe en Palestine, parce que Palestine, un grand nombre de personnes dans le monde sont au courant, et nous, le peuple sahraoui, beaucoup de gens ignorent que le Maroc annexe un territoire qui appartiendrait au peuple sahraoui, comme Israël annexe. Ouais. Donc c'est des colonies, c'est un peuple qui souffre, c'est un peuple, tu nous rappelais dans d'autres émissions, dont une partie est en exil, accueillie par l'Algérie, qui est dans le désert algérien, pas en Algérie, ouais. Dans le désert algérien. Bah, est-ce que tu peux rapidement recadrer un peu
recontextualiser,
parce que ceux qui sont des habitués de Parole de paix te connaissent et suivent un peu cette actualité, mais peut-être que nous avons des nouveaux auditeurs qui ne connaissent pas la lutte du peuple sahraoui.
Ouais. Oui, en deux mots, 1975, le Sahara occidental est colonisé par l'Espagne, ça s'appelait le Sahara espagnol. On est à la fin des colonies, l'Espagne envisage de quitter ce territoire. Et évidemment, puisque c'est le territoire des Sahraouis, il revendique de récupérer ce territoire jusqu'à présent colonisé par l'Espagne. Et à ce moment-là, le roi du Maroc, qui s'appelait Hassan II, voit d'un bon œil le fait de récupérer un certain nombre de richesses du territoire, en particulier du phosphate. Et il organise la marche verte, en général on se souvient un peu de cet épisode-là, où il y a plusieurs milliers de Marocains qui sont amenés à la frontière et qui avancent sous l'œil interrogatif des Espagnols qui sont en train de quitter. Et finalement, effectivement, le coup de poker de Hassan II réussit. Et c'est ainsi qu'il occupe, depuis 1975 donc, ce territoire. Alors... comme tu viens de le signaler, Stéphane, quand c'est la guerre, les gens fuient sous les bombes. On vient de voir comment ça pouvait se passer effectivement à Gaza. Les gens ne savent plus trop où ils doivent aller. Et un certain nombre d'entre eux s'enfuient à l'est et traversent la frontière avec l'Algérie. L'Algérie leur concède un territoire à côté de Tindouf, qui est donc à l'extrême sud-ouest de l'Algérie et ils y sont depuis cette époque. Il y a maintenant 175 000, c'est une estimation bien sûr, Sahraouis qui vivent dans des conditions tout à fait déplorables avec le seul programme alimentaire mondial pour se nourrir. Et ce qui me permet donc, si vous le voulez bien aujourd'hui, de parler de deux choses, oui. À la fois des territoires occupés par le Maroc avec un événement qui s'est produit en 2010, et puis ensuite, dans un deuxième temps, de parler de ce qui se passe dans les camps de réfugiés au sud de Tindouf.
Eh bien, très bien, on te suit.
Est-ce que ça vous va bien comme ça?
Ça nous va très bien, oui. Alors, on allait parler, t'interroger aussi sur, parce que comme qui dit peuple colonisé, qui dit répression, qui dit dit aussi des geôles remplies de prisonniers politiques. Donc le Maroc a dans ses prisons des prisonniers politiques sahraouis. Et également, on se demandait comment dans le désert, comment trouver pour un peuple réfugié, un peuple qui je rappelle a un gouvernement provisoire, moi pas provisoire, un gouvernement
en exil,
voilà c'est ça. Mais également, les peuples en exil ont aussi besoin de se nourrir. Et donc, tu vas aussi nous présenter un projet d'auto pour nourrir les Sahraouis après Tindouf avec un projet de ferme piscicole.
Piscicole, oui, tout à fait. Vous développez c'est assez incroyable parce que. Je suis allé dans les campements de réfugiés depuis maintenant une douzaine d'années, ouais. Et à chaque fois je découvre de nouvelles choses, et là j'ai découvert, lors de cette année, j'ai fait deux voyages cette année, deux missions, et j'ai découvert effectivement cette ferme piscicole qui est tout à fait surprenante dans une oasis. Enfin ça, ce sera dans la deuxième partie.
Ouais, tu nous en parleras, oui.
je viens d'abord sur les prisonniers effectivement politiques, puisque là, un petit insert sur Gdeimizik, on en a parlé effectivement déjà dans une ou deux émissions, on se remet cette fois-ci en 2010. Il y a Laayoune, qui est la capitale du Sahara occidental occupée donc depuis 1975, comme je vous l'ai dit tout de suite.
Oui, Laayoune, c'est sur le territoire occupé actuellement que le Maroc occupe. Donc c'est la capitale des Sahraouis quand ils recouvreront leur nation, leur état. Laayoune, L-A-Y.
Ouais. Donc à cette époque de 2010, les Sahraouis se réunissent et discutent avec les autorités marocaines locales parce qu'ils ne sont pas contents des conditions sociales. On ne parle pas de politique, on ne parle pas d'occupation, on parle du travail, on parle de comment améliorer la vie sous l'occupation avec les Marocains. Donc voilà, et il y a donc plusieurs milliers de personnes qui petit à petit vont se réunir à l'extérieur de la ville, de Laayoune, dans un grand camp avec leurs tentes traditionnelles. Et ce camp, il est sur le lieu dit qui s'appelle Gdeimizik.
Ah, d'accord.
Et, à Gdeimizik, donc, il y a des discussions qui se font régulièrement, tous les jours, avec un comité délégué. Ils discutent avec les autorités marocaines de l'amélioration de ces conditions. Et puis, vu de Rabat, vu du royaume, on trouve que ça commence à bien faire, ces discussions. Et donc, à un moment, le roi décrète que ça suffit et qu'il va falloir évacuer ce campement. Et quand le Marocain royal décide que ça suffit, évidemment, il n'y va pas de main morte, il y va avec des hélicoptères, avec des gaz lacrymogènes, avec des matraques, et avec beaucoup de policiers pour faire ce travail quoi, de baston et d'incendie des tentes. Enfin, on a des photos de tout ça. C'est tout à fait documenté, je dirais. Et alors, il s'ensuit l'arrestation d'un certain nombre de personnes, arrestation et mise en prison aussitôt. C'est-à-dire que On est dans un pays où on a la possibilité, enfin, ils ont la possibilité de mettre les gens en prison sans jugement. Vous avez sans doute évoqué ce qui se passe.
On connaît bien.
Voilà. Donc là, il y a un groupe d'une vingtaine de personnes, des hommes, qui sont mis en prison sans jugement et torturés avec évidemment des aveux extorqués sous la torture et des simulacres de procès quelques temps plus tard. Et donc on est en 2010, hein, je vous reprécise. Je vous passe toute cette histoire parce que je veux détailler un peu davantage ce qui vient de se passer cette année. Il y a un groupe de travail sur la détention arbitraire. C'est le Conseil des droits de l'homme, ça a été fondé par l'ONU. C'est un organisme donc qui est mandaté par l'ONU, des experts indépendants qui donc examinent les violations du droit international des droits humains. Et c'est dans ce cadre-là que ce groupe écoute et reçoit les Sahraouis qui décrivent un peu ce que je viens de vous dire, avec plus de détails sur tous les procès. Il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées. D'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, on a une Lorraine qui s'appelle Jacqueline Fontaine qui est allée à un des procès qui a eu lieu il y a quelques années. Ça a duré assez longtemps. Et pendant ce temps-là, bien entendu, le groupe de Gdemizik, les prisonniers dont je parlais initialement, sont toujours en prison. Ils étaient 21, aujourd'hui ils ne sont plus que 18 parce que certains ont été libérés au bout de leur peine. 2010, on est déjà 13 ans plus tard. Et alors ce conseil, ce groupe de travail sur la détention arbitraire a rendu cette année ses conclusions. Et dans ces conclusions, je vais vous citer un certain nombre. Il y a 18 pages. Hein, et dans ces 18 pages, ils admettent le groupe. Donc là, ils ont écouté et maintenant ils disent ce qu'ils en pensent. Et donc, ils admettent que le groupe a été arrêté en raison de ses opinions politiques. Vous entendez bien qu'au départ, quand il y a ce regroupement, quand il y a cette expulsion, on arrête des gens parce que, soi-disant, ils auraient tué des policiers et donc c'est pas bien, on va les juger pour ça. En réalité, tous les interrogatoires sous la torture ne servent que pour que les Sahraouis arrêtés avouent être membres du Front Polisario et ils sont interrogés uniquement sur leur militantisme et non sur une quelconque activité criminelle. Je suis en train de vous lire la page numéro 6 du document.
Des experts de l'ONU. Hein, on rappelle que c'est des gens de l'ONU qui sont venus interroger les prisonniers. Voilà. Et donc ils disent que ce sont eux, l'ONU dit, ce sont des prisonniers politiques.
Ils ont donc pu rentrer dans les prisons ?
Alors, non, non.
Non, ils ont interrogé.
En fait, ce sont des interrogations qui ont eu lieu depuis cette époque. Ils ont reçu le groupe est à Genève et donc ils ont reçu des personnes depuis plusieurs années maintenant et en particulier cette année. Ils ont fini par recouper les témoignages et tous ces témoignages sont compulsés et ensuite on arrive à ce document de 18 pages sur ses conclusions. Et il se trouve que les 18 restants, dont Naama Asfari, je précise le nom de ce monsieur parce que on connaît son épouse, qui est venue d'ailleurs à Nancy dans le courant de cette année, puisqu'on avait fait à la fac de lettres une réunion avec donc Claude Mangin, qui est l'épouse de Naama Asfari, qui nous avait dit quelles étaient ses difficultés pour rencontrer son mari.
On l'a déjà eu aussi dans une émission de Parole de Paix il y a pas mal d'années. Claude Mangin. Et donc l'ASPS, l'Association Solidarité avec le Peuple Sahraoui, est en lien avec la femme d'un des prisonniers politiques qui s'appelle, tu peux nous redire son nom ?
Claude Mangin, et le prisonnier politique, c'est Naama Asfari.
Naama Asfari.
Son mari.
Oui, oui. Ouais. Donc ce monsieur, il est effectivement toujours en prison. Et là, je continue à feuilleter le document. Je vois par exemple que à la page 18, le groupe conclut que les 18 individus, donc prisonniers, ont été ciblés en raison de leur identité sahraoui et de leur opinion politique concernant le droit à l'autodétermination. Donc en fait, ce sont des gens qui, en dehors de la revendication sociale des conditions de vie académiques dans les camps, en dehors de ça, avaient effectivement une revendication politique. Bon, oui. Ben, on sait bien que les Sahraouis revendiquent l'autodétermination. Mais là, il se trouve qu'ils ont bien été arrêtés à cause de ça. Oui. C'est plus du tout parce que ils ont été accusés de meurtre. Hein. Mmh. Quand le 8 novembre 2010, à 6h30 du matin, ça change pas quel que soit le pays, on est à 6h30 du matin, quand les forces de l'ordre arrivent pour évacuer, il faut quand même se rendre compte que le Maroc affirme, c'est écrit dans le rapport, que les forces de l'ordre arrivent et ne sont pas armées. Vous imaginez
une vaste blague.
que la police et l'armée arrivent quelque part pour évacuer des gens et ils viennent avec un drapeau blanc en disant vous devez partir, s'il vous plaît, messieurs, dames, allez-y.
Ils avaient peut-être des pâtisseries pour le petit déjeuner.
C'est bien possible, effectivement, ils servir le thé.
Et donc, Philippe, tu nous dis que la commission de l'ONU écrit noir sur blanc que dans les prisons marocaines, il y a des détenus politiques en raison de leur appartenance au Front Polisario, qui revendiquent un droit à l'autodétermination, et ce droit à l'autodétermination, il est reconnu par l'ONU.
Bien entendu.
Bah oui, l'ONU dit qu'il faut que les Sahraouis puissent s'exprimer.
Ça, c'est une résolution qui a lieu chaque année, à la fin du mois d'octobre. Il y a une mission qui s'appelle la MINURSO, oui. M-I-N-U-R-S-O, S-O étant Sahara occidental, et le R étant référendum. Donc on est bien sur le référendum d'autodétermination, et chaque année,
l'ONU le réclame.
Il y a ce rapport qui dit que il faut organiser ce référendum pour l'autodétermination des Sahraouis, et on vote, le Conseil de sécurité vote des crédits pour financer cette délégation de la MINURSO dans les campements. Donc ça, c'est incontestable. Je veux dire que qu'on mette en doute le résultat de du référendum, il n'a pas eu lieu, mais on peut sans doute penser que les Sahraouis continueront à se mobiliser. Hein. Ce qui a buté depuis des années.
Mais on retombe un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, on peut se poser des questions sur le fonctionnement de l'ONU, son pouvoir.
Et son pouvoir. C'est vrai qu'il ne faut pas le rejeter non plus, parce que sinon on n'a plus rien, c'est que la loi du plus fort. Mais c'est vrai qu'il faut réfléchir à cette question-là. Philippe, sur cette question des prisonniers politiques de Gdem Izik et ce rapport de spécialistes, d'experts de l'ONU, est-ce qu'il va y avoir des suites? Quelles sont les suites possibles? Et après on passera au deuxième sujet.
Bien sûr, alors... J'en viens, merci de me le rappeler, il se trouve que quand ce document a été publié à la fin du mois d'octobre, il a été lu, analysé, et le groupe qui donc a lu en octobre dernier ses conclusions vient de publier une lettre de remerciement. Parce que les conclusions du document indiquent que les 18 prisonniers doivent être libérés immédiatement. Donc ça, c'est noir sur blanc, effectivement, dans le document. C'est à page 17, donc on est quasiment à la fin. Privation de liberté, il cite le nom des 18. La privation de liberté est arbitraire, c'est textuellement. Et le groupe de travail estime qu'il doit désormais faire la libération immédiate des 18 individus et leur accorder le droit d'obtenir réparation, notamment sous la forme d'une indemnisation conformément au droit international. Et il y a donc dans la conclusion une procédure de suivi dans laquelle le groupe demande au Royaume d'indiquer à quelle date et sous quelle forme va être l'indemnisation.
Et qui peut faire appliquer cette recommandation? Parce que j'imagine qu'on ne peut pas compter sur le roi du Maroc.
Ni le roi de la France.
Ni le roi de la France, oui.
Effectivement, c'est une question. Ouais. Moi, je n'aurais pas malheureusement de réponse.
Bah, il faut qu'on continue à lutter. Il faut que les associations de défense des droits de l'homme montrent du doigt face et une émission comme la nôtre. Et ce que tu apprends ici aux auditeurs et à nos et aux autres organisations que nous sommes fait que on sait qu'on peut faire confiance à la SPS pour ne pas lâcher l'affaire et pour continuer à nous informer et à agir le cas échéant. Par des modes humains qu'on a, nous. Nous, on n'a pas de moyens diplomatiques.
Oui, bah c'est un peu le souhait du groupe, c'est de faire la publicité de ce document. Et ils disent à la fin qu'ils demandent au gouvernement marocain de lui fournir les informations demandées dans les 6 mois durant la communication du présent avis. On va voir ce qui se passe dans les mois qui viennent. Voilà ce que je voulais vous dire, parce que c'est quand même tout à fait nouveau et important, évidemment, pour ces gens en prison.
Bien sûr. Et donc, les auditeurs et auditrices ou qui écoutent cette émission, s'ils veulent plus d'informations, s'ils veulent rejoindre la SPS de Lorraine, ils écrivent... déjà, ils peuvent aller sur le site asps.lorraine.
Association de solidarité avec le peuple sahraoui.
Donc, asps.lorraine.wordpress.com. Mais ils peuvent aussi vous écrire pour avoir des informations, pour participer à des missions, parce que vous faites régulièrement des émissions là-bas, souvent moi en Algérie, dans le désert algérien. Oui. Et on peut aussi vous écrire à contact.aspslorraine@orange.fr, c'est bien ça?
Tout à fait, c'est tout à fait ça, c'est toujours ça. Effectivement, on envisage un nouveau voyage en février 2024. Donc
reprenez l'adresse, l'adresse du site et l'adresse mail de la SPS. Et Lord, tu nous disais que lors de la dernière mission à laquelle tu as participé, parce que tu nous disais plus d'une douzaine, et tu as fait une découverte près de Tindouf d'un projet du poisson tilapia. Et j'avoue que moi, je ne connaissais pas le tilapia, mais Catherine connaissait, qu'on en a parlé avant l'émission. Moi, je ne connaissais pas le tilapia. Et donc, qu'est-ce que c'est que...
Mais il y a de l'eau dans le Sahara, à Tindouf?
Alors, vas-y.
Non, il y a pas d'eau.
Il doit avoir chaud, les poissons.
Non, mais voilà, c'est en cela que c'est aussi une découverte. Et donc, on se transporte là, du coup, on franchit... le mur de séparation entre le Sahara occidental et les campements de réfugiés. Et au mois de mars de l'année 2023, nous avions convenu de rencontrer une association qui est une ONG lyonnaise qui s'appelle Triangle. Et Triangle, donc, a des locaux sur place depuis 2001. Et ils travaillent sur l'amélioration des conditions de vie des réfugiés sahraouis. Et donc, la responsable, qui est la coordinatrice opérationnelle de Triangle Génération Humanitaire, c'est son nom exact, Génération Humanitaire.
Le site, si les auditeurs veulent aller voir, c'est TriangleGH, donc TriangleGH.org. Et effectivement, c'est une association humanitaire sur Lyon qui intervient dans plusieurs pays et notamment en soutien au peuple sahraoui sur plusieurs projets. Et donc, dont celui des poissons tilapia.
Voilà. En mars de cette année, elle nous explique, Zoé, que parmi les projets, comme tu viens de l'indiquer, il y a ce développement d'une ferme piscicole et effectivement, Alain s'interroge, comment se fait-il qu'on puisse élever des poissons dans un endroit où il n'y a pas d'eau? Eh bien, il se trouve qu'il y a une oasis à proximité du campement administratif qui s'appelle Rabouni, à proximité de Rabouni, donc, il y a une oasis, on est à 2 kilomètres à peine de cet endroit, et quand on y arrive, il y a des palmiers, enfin, c'est un endroit où on pourrait presque y passer ses vacances, sauf que ils ont utilisé l'eau qui est produite, si je peux dire ça comme ça, dans cet endroit, pour installer une ferme piscicole. Et donc, en 2018-2019, ils montent ce projet. On en est à la phase numéro 3. Entre-temps, ils ont développé donc il y a 4 gros bassins et l'eau est donc prise dans la vis et ils élèvent ce poisson tilapia qui est le poisson le plus consommé dans le monde. C'est une découverte qu'on a fait aussi, comme vous tout à l'heure, c'est assez surprenant. Et donc ils ont bien étudié la question parce que on manque de protéines évidemment. On manque de protéines et c'est pour ça que le tilapia a été choisi. C'est un complément alimentaire indispensable.
Oui, et puis moi j'ai dit tout à l'heure que je ne mangerais pas du tilapia parce que c'est aussi un poisson qui se nourrit de tous les détritus et les déchets.
Mais
qui en fournit aussi.
En mode de survie d'un peuple en exil.
C'est quand même une source de protéines.
C'est
pas une ressource économique. Ouais. Ils ne le vendent pas. Ils l'élèvent pour pouvoir
survivre. Ouais.
C'est la phase d'après.
Ah, d'accord. La commercialisation suivra.
Voilà.
D'accord.
Au départ, on commence par dire il faut trouver une source de protéines. Il y a cette possibilité, il y a de l'eau, on fait des bassins et on élève du poisson. Alors, comme le dit Catherine, c'est vrai que sa réputation n'est pas bonne. Parce que quand il est dans la nature, il bouffe tout et il rejette tout et c'est pas bon. Sauf que là, ils ont surveillé avec beaucoup de précautions ce qu'ils devaient leur donner à manger. Et comme on est sur un truc d'élevage, on choisit tout ce qu'il faut et... l'alimentation est très pointue. Il y a des vétérinaires, des ingénieurs qui ont travaillé sur le sujet, parce que quand ils ont présenté le projet, il fallait absolument être garant de la santé des personnes qui allaient manger. Déjà, quand même, on est dans le désert, ils n'ont pas à manger, si en plus on leur donne à manger des cochonneries, ça ne va pas. Donc, on fait très attention à ce qu'on donne à manger aux poissons, et c'est réparti avec sous la surveillance donc de toute cette équipe. Et on commence déjà l'élevage et on commence aussi un peu à habituer les gens. Parce que nous, on l'a vu dans le dernier voyage au mois d'octobre, on en a mangé. Déjà, on est toujours là. Ça peut rassurer. Mais on voit bien qu'il y a une petite réticence, ils ne sont pas habitués à manger de ça. Alors,
du poisson, c'est sûr que pas la nourriture habituelle.
Ouais. Bah oui, bien sûr. Ils sont plus habitués à manger ce que le programme alimentaire leur octroie, qui c'est plutôt des lentilles, du riz, des tomates en fonction des arrivages, et c'est évidemment pas leur choix.
Ils pourront. Vas-y, termine Philippe, et puis tu nous en quelques secondes, parce que là on a déjà dépassé notre horaire, quelle est ta conclusion à toi, est-ce qu'il y a des choses à faire? Vas-y.
Voilà, là aujourd'hui le procédé est que maintenant on sait comment faire pour les élever, et l'étape suivante c'est que dans les cinq campements, il y a des organisations qui produisent localement, donc des gens qui vont eux-mêmes continuer dans le campement à produire le poisson et avoir une exploitation économique, qui va permettre de nourrir les gens spécifiquement dans le campement. Nous, ce qu'on peut faire, et ce qu'on est en train de monter comme dossier, c'est d'acheter du poisson pour le campement avec lequel nous sommes en correspondance. On va trouver les financements et on achètera le poisson, on le financera, et ce poisson ira à la population du campement qui s'appelle le campement du 27 février, où on va à chaque mission.
Donc,
ce qu'on va faire, et c'est d'ailleurs le message que je voudrais passer. Si vous voulez nous aider, vous nous donnez un peu d'argent, vous nous écrivez, on vous explique comment faire pour nous donner de l'argent, et ensuite cet argent servira à acheter du poisson là-bas.
Très bien, moi je rappelle encore l'adresse, mail, c'est contact.com. aspslorraine@orange.fr. C'est bien ça.
Oui. Oui, c'est bien ça, tout à fait, Stéphane.
Eh ben, merci beaucoup, Philippe. Et puis, quand tu seras à nouveau en forme, on espère te retrouver avec, dans le studio bon, avec nous.
Tu nous feras un bon plat de
tilapia. Ah ouais. Et on dira ce qu'on en pense. Allez, bah, merci à toi, bah, merci, merci à vous tous. Merci à Pierre, notre technicien. Et puis, oui. bonne semaine à vous.
Merci,
merci au revoir.
Au revoir. Au revoir.